생일 축하합니다. 당신의 생일은 축하합니다.
L'année France Corée, Séoul Hypnotique au Forum des Images, le festival du film coréen à Paris, autant d'occasions de faire le point sur le cinéma coréen d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Eastasia.fr pour notre 27e podcast spécial Corée, comme vous l'avez compris. Alors, pour parler du cinéma coréen, j'accueille Amandine pour la première fois. Bonjour Amandine.
Bonjour.
Et aussi Elvire. Salut Elvire.
Salut.
Nicolas.
Bonjour.
Elias.
Bonjour.
Justin.
Salut.
Et cette voix qui semble dire « I'm a cyborg, but that's okay » Yannick. Il faut que tu dises bonjour pour qu'on comprenne la référence au Park Chan-wook si finement amené.
Bonjour.
Alors Yannick, puisque tu as la parole, j'aimerais qu'on fasse une petite introduction sur le cinéma coréen d'aujourd'hui et qu'en quelques mots, chacun nous dise ce qu'il pense, de manière introductive, de ce qu'est le cinéma coréen aujourd'hui, s'il se porte bien selon vous, avant qu'on entre dans le vif du sujet. Yannick.
Je répondrai oui et non, parce que pour moi, il y a eu une belle période de cinéma coréen avec... des films comme Old Boy, J'ai rencontré le diable et compagnie. Mais ça s'est un peu calmé depuis quelques années, même si on a toujours tous les ans quelques films plus ou moins bons. Cette année ne fait pas exception. On a eu quelques chouettes films qui ont été présentés soit en festival ou qui sont sortis en DVD. Mais c'est vrai que on a beaucoup moins de sorties salles. Qu'il y a peut-être 10 ans, quoi.
Quand tu parles justement de bons films, auxquels tu penses que, par rapport à ceux qui ont pu t'arriver en DVD ou en cinéma cette année ou dans les années plus récentes?
Alors je pense cette année à Hard Day que j'ai vu en festival et Terror Live sorti en DVD récemment.
Ok, c'est bien, ce sont des films dont on va parler. Elvire, à ton avis, est-ce que le cinéma coréen se porte moins bien justement à cause de la distribution ou est-ce que c'est dû à ce qui se passe en Corée? Comment est-ce que tu sens le cinéma coréen aujourd'hui?
Je pense que je vais répondre de la même manière que Yannick, en fait.
Vous n'avez pas le droit de tous répondre.
D'accord, ok, on n'a pas le droit. Bon, alors... les films sont un peu moins bons ces dernières années par rapport à ce qu'on a pu voir justement avec Old Boy et les autres. Les blockbusters qu'on peut voir en festival, je vais citer ceux qu'on a pu voir en fait au festival du film coréen, donc Vétéran et Assassination, sont très bonne qualité. Par contre, les films indépendants, franchement, c'est pas top.
Vous avez raté.
Il y en a peut-être quelques-uns qui sont bons, mais sur la totalité, les autres sont regardables, ils sont pas mauvais, mais ils sont pas géniaux non plus. Après, est-ce que c'est un problème de production coréenne ou pas, j'en sais rien.
On aura la réponse avant la fin du...
Oui, on aura certainement la réponse, entre temps on aura réfléchi.
Mais je suis assez d'accord avec ça, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un fossé entre un cinéma commercial qui a tendance à être de plus en plus lisse, et on va en parler sur les films qu'on va voir par rapport à une époque où il y avait quand même des propositions de cinéma qui étaient plus audacieuses. Alors après, on n'a pas eu, ça fait quelques temps qu'on n'a pas eu de Park Chan-wook par exemple, ou Kim Ji-woon qui a fait des films aux États-Unis.
Qui n'était pas top.
Ouais, qui n'était pas top. Donc à voir ce que ces réalisateurs des années 2000 vont nous offrir prochainement. Je pense qu'on va en parler dans les projets qui sont en cours. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a aussi de moins en moins de propositions indépendantes de jeunes réalisateurs qui ont l'audace de ce qu'on pouvait découvrir il y a une quinzaine d'années.
Et pourtant, à mon avis, c'est pas un problème de production, puisque la société coréenne CJ, qui est une grosse boîte, en fait, a monté son label de cinéma indépendant. Ce qu'on a pu voir au Festival du film coréen, c'est que les trois quarts des films indépendants étaient produits par ce label-là. Et je pense que c'est pas la seule boîte à avoir créé ce label-là, donc je pense que c'est pas un problème, en fait, de pouvoir... Enfin, la production du film est pas un problème, à mon avis. Un énorme.
Mais je crois qu'il y a certains éditeurs qui font quand même des mauvais choix, qui nous amènent quand même de sacrées bouses. Je pense par exemple à Pandemia ou au machin tout chiant avec des avions.
Mais là, tu parles surtout de ce qui nous arrive en France, en fait, ouais. Parce que nous, on n'a pas la vision globale de ce qui est diffusé en Corée.
Là, c'est par rapport à la distribution des films qui nous arrivent.
D'avoir, d'avoir accès à autre chose que ce qui nous arrive, quoi.
C'est vrai.
Ah ouais, c'est ça, mais bon, après, faut
les Coréens font un choix particulier, en fait. Pour le public européen, ils ont tendance à sortir des films qui ne marchent pas chez eux, voilà. En pensant que ça va fonctionner chez nous.
Ah, je sais, bah, je sais pas.
Paraît pour le boy et puis des films comme ça n'ont pas tant marché que ça chez eux.
Non, mais ça, c'était avant. Maintenant, ils ont tendance à pas distribuer les films qui vont avoir du succès chez eux. Par exemple, un Assassination qui a réuni
12 millions
de spectateurs. On le verra jamais chez nous.
12 millions.
C'est mais je crois pas qu'ils veulent pas le sortir. Ah, je pense que les distributeurs, effectivement, on va revenir. Non, bon, alors on va reprendre une phrase. Voilà, une phrase. Est-ce que comment vous sentez le cinéma coréen aujourd'hui? Une phrase chacun. Et puis après, on reprendra le débat de manière plus précise. Ce sont de toute façon des problématiques qui vont arriver. Nicolas, donc tu ne semblais pas forcément d'accord avec ce qui a été dit.
C'est bizarre en fait, c'est que déjà il faut se séparer en fait. La production cinématographique locale et tout ce qu'il y a de contexte politique derrière, en fait, parce que comme on le sait tous, la situation politique en Corée est très compliquée et ça va être à mon avis de plus en plus difficile de pouvoir produire des films libres qui interrogent, enfin des productions variées, parce que on sait que derrière politiquement ça fait énormément pression à ce niveau-là. Après, moi, je trouve que c'est vrai que on n'a plus des films vraiment rentre dedans comme Little Old Boy ou J'ai rencontré le diable. Mais à côté, je trouve qu'on a quand même pas mal de propositions de cinéma variées, que ce soit au niveau des blockbusters ou même du cinéma indépendant. Je trouve que, enfin, il y a vraiment des cinéastes, des jeunes cinéastes qui émergent, qui sont peut-être peut-être moins de rage. Mais qui ont aussi tout autant de talent, je trouve, pour exprimer plein de choses, pour parler de leur pays, pour essayer un peu de sortir de cette société un peu de plus en plus capitaliste et d'essayer de comprendre pourquoi le pays en est arrivé là. Et je trouve que c'était une des grandes thématiques du festival, d'ailleurs. Le côté politique et social.
D'accord, c'est intéressant, je le note, on y reviendra, parce que justement, j'ai trouvé que ça manquait de propositions justement politiques, ou en tout cas rentre dedans de la part des jeunes cinéastes. Alors il y a certains films dont tu vas parler, peut-être Highland et Cart auxquels tu penses, que j'ai pas vu,
mais
sur les grosses productions,
Highland, mais
et même sur quelques productions indépendantes que j'ai vues, j'ai trouvé que c'était assez déconnecté de la réalité, mais donc ça sera un débat
documentaire aussi.
Ultérieur.
Aussi.
Justin
Oui, donc je suis un peu d'accord avec Nicolas, donc c'est-à-dire que malgré tout... on trouve encore des bonnes choses qui sortent, même qui nous arrivent en France aujourd'hui. Cette année, on a eu Hard Day ou Seafog, qui étaient des très bons films. Après, c'est vrai qu'on ne retrouve pas forcément cette rage qu'on avait dans la précédente génération, un peu des années 2000 du cinéma coréen. Mais ça peut être intéressant aussi, parce que ça tombait peut-être limite dans le cliché au niveau de cette outrance, cette violence sur certains films. Même dans les bons films, dans The Chaser, ou même le second film d'ailleurs du réalisateur de The Chaser, dont j'ai oublié le titre.
The Murderer.
Où il prépare un film dont on pourra parler.
Au bout d'un moment, il y avait un côté où, quand on regardait un cinéma coréen, un film coréen, on savait que ça allait mal se finir. Quand vous savez, quand il arrive, la tournure de l'intrigue, ça allait se finir dans le sang, les larmes. Dans la démesure, et puis là, voilà, il y a une nouvelle génération qui est peut-être moins démonstrative, mais bon, c'est pas inintéressant quand même, ça change des clichés peut-être qu'on avait fini par atteindre sur des films, même des films qu'on aime, comme J'ai rencontré le diable, et où c'était trop finalement, là, ça peut amener un renouvellement, ce changement de ton.
Elias ?
En fait, moi, je pense peut-être un peu tôt pour en parler, mais c'est remarqué, et donc là, j'ai sous les yeux un exemple qui m'a beaucoup marqué, qui du coup contredit un peu ce qui a été dit. C'est que je pense pas que tout le nouveau réal ait perdu cette idée de rage, mais qu'il y a un peu aussi des côtés de production ou de peur de ne pas marcher qui les empêchent de vouloir mettre totalement leur vision à profit. Enfin, je pense, juste un exemple particulier, c'est l'ancien film qu'on parlera tout à l'heure, qui s'appelle Social Phobia. où en fait le réalisateur m'a dit concrètement à la fin du film, son film à la base devait être un film très lisse, qui devait être beaucoup plus abrupt, beaucoup plus violent. Et en fait, à la vue des réactions donc, du public et sûrement de la production, il n'a pas dit, mais je pense que c'était impliqué, il a décidé de rendre son film beaucoup plus accessible et beaucoup moins dur à regarder. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté un peu d'un cinéma qui fait assagir, qui se veut plus sage, qui se veut moins dur à regarder. Et ça se voit parce que dans le film que j'ai pas vu autant de films que j'aurais voulu voir au STP, mais je trouve que les films sont en général très lisses. Il y a un peu ce danger-là, justement, d'un cinéma qui s'assagirait un petit peu trop.
On peut se demander si ça rejoint pas ce que disait Elvire sur le fait que le cinéma indépendant participe en fait à des filiales de grands médias.
Si je peux rebondir sur la perception de la rage, ce que tu as dit, Nicolas, est vrai. Les nouveaux réalisateurs, on a l'impression qu'ils ont moins de rage, mais c'est pas la même génération non plus, en fait. Et je pense que là, c'est d'un point de vue sociétal. La génération d'avant, des Park Chan-wook, etc., ont une histoire un peu plus compliquée, une histoire personnelle un peu plus compliquée, parce que le pays a eu des épreuves, en fait, que n'a pas la nouvelle génération.
Oui, mais qui vont bientôt peut-être avoir
qui vont, ils vont avoir des épreuves différentes, ouais, en fait. Voilà, ils vont avoir des épreuves totalement différentes, qui vont être aussi difficiles, en fait. Mais ça sera différent, il y a peut-être moins cette rage contre un système établi, un peu sclérosé, qu'avait la précédente génération. Et du coup, on voit moins de folie, on voit moins de violence, de tout ce qui nous plaisait dans le cinéma coréen, mais qui était poussé à l'extrême et un peu trop cliché à la fin. Et je pense que c'est lié aussi à ça, en fait. La population change, la société évolue, forcément, et donc le cinéma aussi.
Un truc décevant, c'est que j'ai rarement aussi peu entendu de Shiba. Dans les films coréens, cette
mais parce
année,
qu'il faut savoir qu'en temps normal, les Coréens ne le disent pas toutes les 3 secondes.
Alors que dans les
en fait.
Films des années 2000, on n'entend que ça. Enfin, ils passent leur temps à s'insulter et donc.
Mais je pense qu'ils avaient la précédente génération avait vraiment des choses à dire qu'ils n'ont pas pu dire pendant très longtemps sous la dictature. Et maintenant, bah voilà, ça fait un petit moment que la dictature est passée. Et du coup, même si c'est un semblant de liberté, parce que c'est pas si simple en Corée, ils ont moins de revendications. Ou en tout cas, les revendications sont différentes.
Mais du coup, en fait, je me demande, pour revenir à ce que je disais, puis en fait, je pense que certains ont encore cette idée, ont encore cette envie. D'un côté, je suis très content que ce genre de film à la Old Boy, j'ai rencontré plus tard, soit terminé, parce que j'en ai vu beaucoup trop. D'autre côté, je me dis que d'autres ont envie de faire des films qui vont aussi loin, mais je sais pas, en fait, j'en sais rien, je fais que supposer, mais je sais pas s'ils peuvent encore, dans la structure coréenne.
Le comité de censure est assez dur, mais...
T'as parlé de CJ, justement, qui est quand même une grosse boîte.
Au niveau de ce qu'est l'industrie du cinéma coréen, actuellement, c'est peut-être plus difficile.
C'est CJ, justement, par le nom, si pas... pas eu des pressions pour le film, ce qu'il a dit. Hein, donc,
C'est possible, le comité de censure coréen est en général assez pénible, en fait.
J'ai vu quand même quelques films assez violents cette année, hein. C'est pas non plus fini.
Non mais en fait, ils ont le comité de censure a tendance, il peut par exemple censurer Aung San Suu, tout simplement parce qu'il a un discours, en fait, sur la relation entre le Japon et la Corée, un discours positif. Ça va. Là, ils vont censurer.
Ah oui,
par contre, ils ne vont pas censurer un film où il va y avoir baston sur baston. C'est plus le même type de censure.
On voit Vétéran, c'est quand même assez violent.
Vétéran, c'est très violent, il n'y a pas de souci. Aung San Suu, ça a été bloqué.
Il n'y a pas beaucoup de sang dans Vétéran. On va y revenir. Amandine, quel est ton feeling sur le cinéma coréen d'aujourd'hui ?
Moi, j'ai découvert le cinéma coréen il n'y a pas longtemps, déjà, donc avec Park Chan-wook, etc. Et c'est vrai que cette année, j'ai trouvé beaucoup plus lisse, on va dire. Mais après, je me demande si on n'est pas juste dans un entre-deux, en fait, du cinéma. C'est que j'en ai pas vu beaucoup, mais le film indépendant que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il savait juste pas où se situer, en fait, entre le film social, entre le thriller, un peu, enfin, je sais pas trop. Et du coup, je me dis peut-être que, je sais pas, la prochaine génération, ou dans pas longtemps, viendra dans une nouvelle forme de film, un peu plus intéressante que celle actuelle, en fait. Je pense qu'on est juste dans un entre-deux.
Ce qui est, c'est peut-être d'autant plus vrai qu'il y a aussi une génération dont on n'a pas vu les films cette année, mais qui a émergé ces 5 dernières années dans la sélection portrait. Là, j'ai la liste des réalisateurs qui étaient là dans les portraits. Donc, il y a eu Yong Soon-young qui avait fait Bleak Night en 2011, Kim Kyung-mook qui était assez violent dans les revendications. C'est le réalisateur de Stateless Things qui avait fait des courts-métrages assez marquants et des revendications sur les homosexuels qui étaient assez fortes. Il y avait eu Pluto, A Cappella, on a eu ces genres de films entre 2013 et 2014 avec des revendications sociales qui étaient très précises et qui semblent avoir disparu entre-temps. Ces réalisateurs continuent à faire des films, ils font plus vraiment partie de la nouvelle génération, Mais les jeunes réalisateurs ont plus non plus, parce que là on parlait des Park Chan-wook et des Kim Ji-won, donc des gens qui sont arrivés avec la nouvelle vague à la fin des années 90. On a découvert Jung Jin aussi un peu sur le tard, mais pareil avec des réflexions d'un cinéma de genre pour parler de la Corée là où ça faisait mal. Et finalement, ces jeunes réalisateurs donc des années 2010, on va dire, sont arrivés avec un discours beaucoup plus sociétal. Et cela aussi semble avoir disparu des nouvelles générations qu'on a pu découvrir, parce qu'on a vu beaucoup de premiers films quand même cette année.
Dans les films que tu as cités, qui est dans les catégories portraits, ils ont quasiment tous un discours sur la jeunesse coréenne. Je me demande aussi s'il n'y a pas eu un effet de mode il y a quelques années. Oui. Parce qu'ils l'ont tous fait, quoi. Ils ont quasiment tous fait le film sur le lycéen, c'est difficile l'examen pour rentrer à l'université. Oui,
c'est beaucoup de films
sur l'éducation, sur le système d'éducation en Corée. On en a quand même vu panoplie, quoi.
Mais effectivement, ils l'ont fait, c'était à peu près la même génération et en même temps. Mm. Donc aussi, ce qu'ils ont vécu, ça pouvait être ça. Comme ça, ce sont des premiers films. Et,
Je sais pas pourquoi maintenant cette année ou peut-être l'année prochaine aussi, on aura moins de...
Bon, de toute façon, ce sont des problématiques qui ont été posées dans ce premier quart d'heure sur lesquelles on va revenir dans l'heure qui vient. Avant de parler du FFCP, des films et de dresser un peu ce qu'est le cinéma coréen aujourd'hui, on va un peu dérouler, comme d'habitude, les news, les bandes annonces, les critiques des films qui sont disponibles, mais en se concentrant sur des films coréens, ce qui va nous permettre de dresser un peu ce portrait. Et comme news qui nous semblait assez symptomatique de justement cette fuite des cinéastes qui ont extrêmement marché dans les années 2000. C'est le nouveau projet de Kim Ki-duk. Donc Kim Ki-duk a fait plusieurs films qui nous sont arrivés, qui ont eu quand même un succès assez important au festival et beaucoup moins en Corée. Et depuis deux films, il a quitté la Corée, il a tourné un film au Japon, Stop sur le nucléaire, et là il tourne un film en Chine. Kim Ki-duk définit ce nouveau projet, d'après la news d'Elvire, dont tu vas nous parler après, comme une histoire secrète sur le temps et l'espace. Et c'est un projet qu'il a mis une dizaine d'années à écrire sans pouvoir le financer en Corée, alors que c'était quand même l'époque, il y a 10 ans, où c'était un cinéaste qui avait énormément de prix. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est finalement la Chine qui va lui donner un budget assez confortable de 30 millions de dollars, c'est-à-dire beaucoup plus que tous ces, que tous les films qu'il a pu faire. Il est en négociation pour avoir Gong Li et Zhang Ziyi, donc c'est à dire que la Chine lui offre les moyens de concrétiser un projet d'une ampleur qu'il n'arrive pas à réaliser en Corée malgré sa notoriété. Et c'est vrai que ses derniers films, que ce soit One on One ou Pieta qui nous sont arrivés, étaient quand même intéressants, mais un petit peu fauchés par rapport aux ambitions que pouvaient porter les films.
Oui. Je ne sais pas si finalement cette nouvelle interroge plus Kim Ki-duk ou la Chine, puisque seule la Chine, en tout cas en Asie, a les moyens de financer un film d'un réalisateur plutôt fauché en temps normal. C'est peut-être aussi un peu pour embêter la Corée, puisque c'est le réalisateur mal aimé de la Corée, Kim Ki-duk. Personne ne l'aime. On est les seuls en France, en fait, si jamais on parle un Coréen, on dit qu'on aime bien, ils nous regardent avec des grands yeux.
Bah déjà, est-ce qu'ils ont vu ses films, c'est,
ils en ont vu quelques-uns, mais en tout cas, il a la réputation d'être le vilain petit canard du cinéma coréen. La Chine a les moyens de le faire, ça embête la Corée, c'est parfait. Et de toute façon, la Chine a une politique depuis quelques années, que ce soit de coproduction ou de production, en fait, assez conséquente, qui va avec le reste de sa politique, en fait, internationale. Donc c'est...
Et est-ce que, d'après vous, c'est un signe que la Corée n'arrive pas à garder des réalisateurs qui peuvent marcher, en tout cas, qui peuvent marcher ou qui peuvent avoir des prix à l'international, ou pas du tout?
Bon, Kim Ki-duk qui fonctionne pas,
ils n'en ont pas perdu tant que ça, à part les emblématiques où on pouvait se dire c'était le moment venu de tenter une carrière internationale, sinon...
Mais je pense vraiment que Kim Ki-duk, il est persona non grata en Corée. Donc il s'en va, c'est pas grave.
D'accord, bon d'accord.
C'est vraiment... il n'est pas aimé, c'est tout.
Puis au final, il y a Park Chan-wook qui est parti, mais il revient. Là,
oui, Park Chan-wook revient, ils reviennent tous finalement plus ou moins. Ouais,
Kim Ji-woon aussi est revenu, je crois.
Bong Joon-ho, il n'est pas encore totalement revenu, mais...
Oui,
c'est
ça. Mmh. Ouais.
Dans Stop Pierre, c'était bien, ça marche.
Non, mais voilà, ils font un essai, ils sont un peu déboussolés, ça marche pas des masses d'un point de vue artistique, on va dire. Ils reviennent en Corée.
Pierre,
sœur.
Non, non, mais. À part ce que je veux dire, c'est que les relations avec la production américaine sont parfois. Les relations sont parfois un peu compliquées. Plus qu'apparemment avec la production coréenne. Ils reviennent, Kim Ki-duk reviendra de toute façon pour faire un film fauché.
Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent en même temps, mais voilà. C'est vrai que voilà, c'est un des premiers projets en tout cas c'est de Kim Ki-duk qui donne un peu envie depuis.
Oui, mais
voilà,
il peut peut-être réaliser Arrivang, le rêve donc, qu'il n'a jamais réussi à accomplir avant, quoi, produire un film avec 30 millions de dollars. À voir ce qu'ils vont faire.
Voilà, alors de l'autre côté du spectre du cinéma coréen, entre un réalisateur qui est très peu vu dans son pays, donc Kim Ki-duk, et qui est apprécié à l'étranger, donc y compris en Chine. On a sélectionné une bande-annonce d'un film qui semble être assez emblématique de ce que peut être le cinéma populaire coréen, qui est celle d'Inside Man, donc le nouveau film avec Lee Byung-hun. Donc on a regardé la bande-annonce. Yannick, qu'en as-tu pensé ?
C'est difficile de juger un film sur si peu de temps, mais le film reste, enfin les images qu'on voit sont quand même prometteuses. On voit des séquences d'action assez intéressantes. On sent le contexte politique. C'est un film qui a l'air honnêtement assez classique dans ce que j'ai pu voir, mais qui donne envie, qui peut donner un thriller assez solide.
Quelqu'un d'autre l'a vu et a envie d'en agir sur Inside Man.
J'ai peut-être juste résumé un peu l'histoire. De ce que je m'en rappelle, c'est l'histoire d'un politicien corrompu, donc un politicien coréen de base, qui, après avoir passé un accord avec un journaliste, accepte en fait de faire monter un autre politicien pour les présidentielles. En fait. Donc voilà, une histoire de corruption dans le milieu politique en Corée, ce qui est à peu près dans le cadre de la moitié des films coréens. Donc oui, ça a l'air efficace. Ça n'a pas l'air original pour un sou, parce que ce qu'on voit dans la bande-annonce, en gros, c'est des costards, de l'argent et des grosses voitures.
Et de la baston.
Et de la baston, ouais.
Mais c'est un peu ça qui m'interroge un peu sur ce type de film. C'est-à-dire que c'est typiquement le type de film qu'on a l'impression d'avoir déjà vu une bonne trentaine de fois sur les 10 dernières années dans le cinéma coréen. Et c'est le type de film, d'ailleurs, qui continue à marcher là-bas, quoi.
Ah mais clairement, mais par exemple dans un genre un peu similaire, j'avais vu The Divine Move au Festival du film fantastique de Bruxelles, qui était d'une originalité absolument, ça frisait le zéro absolu, mais qui reste plaisant sur 2 heures en termes de polar solide et jusqu'au boutiste, donc...